Je fais appel à Martin McGuire. Martin McGuire qui décrit les matchs du Canadien au réseau Cogeco. Salut Martin.
Allô Philippe.
Martin, tu es un spécialiste de hockey, on le sait tous, mais tu es aussi un grand amateur de sport. Tu suis les autres sports assidûment. Alors avant de te lancer sur le Canadien, qui va être la pièce de résistance pour toi ce soir, je vais te demander d'abord et avant tout, tu suis ça peut-être avec un peu plus de distance, mais tu as du recul, puis tu as de l'expérience, puis tu es un observateur aguerri. L'impact, d'abord, comment tu vois leur été?
Écoute, sur le terrain, je vais laisser mes amis spécialistes commenter leur performance. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que on attend que la chaîne embarque en bon québécois, Philippe, dans le cas de l'impact. On a des bonnes performances, on se sent tout à coup encouragé. Puis tout à coup, oups, on échappe une victoire comme lors du dernier match où on a une avance de 3 buts, on la laisse filer. Pas convaincant contre Calgary dans un championnat canadien qui est excessivement important, parce que si l'impact fait pas un bout de chemin dans les séries, n'accède pas aux séries, ne fait pas un bout de chemin dans les séries de la MLS, il reste que le championnat canadien et ensuite sa place au sein de la CONCACAF, c'est très important. Ça peut amener un peu de passion. Alors, tu sais, sur le terrain, un peu en dents de scie, là où je me pose peut-être une question par rapport à l'impact et à l'été de l'impact, moi, je demeure en périphérie sur la rive sud, en banlieue sud de Montréal. Puis je vais te dire une chose, Philippe, sur la rive sud de Montréal, en périphérie, l'impact, malheureusement, n'existe pas.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, n'existe pas? Parce que dans le fond, les gens de la Rive-Sud écoutent la radio, ils lisent les journaux.
Et c'est peut-être aussi le cas pour les gens de la Couronne-Nord, mais je vais parler de l'endroit où je suis. Là. Moi, je patrouille la Rive-Sud. Là. Puis, je trouve pas ça normal, Philippe, qu'on se promène, par exemple, sur l'autoroute 20, près de Sainte-Julie, puis qu'on voit pas un beau gros panneau de pub avec Piatti, avec l'Impact, avec, tu sais, une fois de temps en temps. Quand je dis que l'Impact n'existe pas, c'est qu'on ne sent pas que c'est la ville de l'Impact. Si on va à Montréal, si on va autour du stade Saputo, ça, il n'y a pas de problème, là. On sent que l'Impact a des assises assez fortes. Véritablement, je pense que selon les études de marché qu'ils font, probablement que leurs fans sont d'abord et avant tout sur l'île de Montréal. On connaît la passion des ultras. Mais moi, je vous parle comme un gars de banlieue, là, puis je ne sens pas la passion pour l'équipe. On n'a pas l'impression que l'équipe a envie d'être présente à l'extérieur de l'île de Montréal, autour de Montréal.
C'est super intéressant ce que tu dis. Je trouve qu'il y a matière à réflexion pour le président de l'équipe, Kevin Gilmour, parce que Montréal, il le dit lui-même, tu te souviens que ça a été une de ses déclarations quand il est entré en poste, et moi je me souviens d'avoir fait une entrevue avec lui à l'époque, puis il me l'a dit. Il dit, Montréal, c'est un gros marché, là. Arrêtons de dire que c'est un petit marché. Mais encore faut-il que ce gros marché-là, il faut l'exploiter au maximum, pas exploiter simplement son cœur.
Traverse le pont. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand je parle de panneaux de pub, là, et là, je suis pas un spécialiste de marketing, mais de mon œil d'observateur, Philippe, moi, j'aimerais pouvoir voir, je sais pas, moi, que certains terrains de soccer de banlieue aient le sceau de l'impact. C'est quoi le sceau de l'impact? C'est d'avoir une bannière, quelque chose? Je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ce qui manque, entre autres, à l'impact.
L'impact, c'est pas assez approprié le soccer au Québec. Hein?
Exactement. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de raison. Tu sais, il y a une machine qui s'appelle Saputo, là, derrière l'impact, là, qui en sont les propriétaires. Et je pense que ces gens-là savent comment commercialiser des produits, là. Ben, moi, je pense qu'on doit peut-être voir à ce que l'impact se régionalise. C'est-à-dire que des gens autour de l'île de Montréal, là où semble être leur clientèle, puissent s'approprier l'équipe.
Bon, super intéressant. Est-ce que tu te risques à donner une note à l'impact pour son été?
Ah, écoute, moi, je vais leur donner un C+, puis je vais attendre de voir ce qui va se passer à la fin de la saison, parce que ça va être intéressant de voir si l'équipe met les pieds en série et qu'on a un championnat canadien passionnant. Là, à ce moment-là, les gens vont probablement embarquer, l'émotion va arriver un petit peu plus, l'émotion va lever, comme on dit, puis à ce moment-là, je te reviendrai avec un B ou un B+.
Il reste des examens, la session n'est pas complétée pour l'impact. Là. L'examen de fin d'année, l'examen de Noël, ils peuvent le passer encore.
Oui, puis je me répète, mais je te dis, c'est une équipe qui doit apprendre à davantage là, à aller étendre ses temps tentacules, il n'y en a pas d'autre équipe de soccer que l'Impact.
Je suis d'accord avec toi. Les Alouettes maintenant. Puis là, les gens qui disaient, hey, Martin McGuire, il faut qu'il nous parle de hockey. Oui, on va y venir, oui. Au hockey. Attendons. Mais on écoute Martin, qui a été super intéressant sur l'Impact. Maintenant, les Alouettes.
Écoute, les Alouettes, moi, de temps en temps, tout ce qui s'est passé, entre autres, au cours de la dernière année avec la situation des propriétaires, ça m'a pris au cœur, ça m'a touché au cœur un petit peu, Philippe, parce que j'ai déjà été la voix radiophonique des Alouettes en français à la fin des années 90.
Là. Je ne savais pas ça. T'as décrit les matchs des Alouettes?
J'ai décrit les matchs des Alouettes jusqu'à l'automne 2003.
Combien de temps? Cinq saisons.
La fameuse Coupe Grey, la première Coupe Grey après les 25 ans, si ma mémoire est bonne, celle qu'ils ont gagnée à Edmonton, j'ai eu le plaisir de la décrire.
J'ignorais ça. Qui était le corps arrière?
C'est les débuts d'Anthony Calvillo et la fin de Tracy Ham.
OK. Alors, tu étais là. Donc, t'as un lien émotif, un lien professionnel à tout le monde avec cette équipe.
Exactement. Puis, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que moi, j'étais là quand Larry Smith a pris le bâton de pèlerin puis a commencé à convaincre des gens presque un par un, puis qui s'est servi des Charbonneau, des Eppel et compagnie, des Bolduc. Ces gars-là faisaient des téléphones pour convaincre des clients d'acheter des billets. Moi, j'ai vu un peu cette époque-là, la renaissance des Alouettes. Là, je vais faire le lien avec aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'a fait un petit peu mal au cœur de voir cette équipe-là qui est maintenant orpheline, qui appartient à la Ligue. On ne sait pas trop de quelle façon la Ligue va finir par aboutir dans le dossier de la vente des Alouettes. Mais en même temps, je suis obligé de lever mon chapeau aux gars sur le terrain. Moi, je trouve que l'entraîneur Jones fait un travail extraordinaire. Moi, je pense que c'est un gars qui est allé à la barre de l'équipe avec beaucoup d'humilité. Vu la situation de l'équipe, c'était pas facile. On a vu la remontée spectaculaire qu'ils ont fait lors du dernier match. Écoute, ils sont pas parfaits. Ils partent de loin. C'était la pire équipe de la Ligue canadienne de football. Et cette année, ils nous ont offert quelques bonnes soirées de football. Moi, je me suis surpris quelquefois, Philippe, à regarder des matchs longtemps, puis à pas changer de poste, à écouter nos amis à la radio, Jean Saint-Onge.
Je vais te faire une confidence, Martin. Oui. J'ai écouté plus d'Alouettes, de minutes de match des Alouettes cette saison, je te dirais qu'au cours probablement des quatre dernières années combinées.
Écoute, j'ai pas fait le détail, mais je peux te dire que cette année, ils m'ont intéressé. Tu sais, puis je t'ai parlé de Jones. Moi, c'est un gars qui me fait penser un peu à Gérard Gallant. Tu sais, Gérard Gallant a eu cette approche. L'entraîneur des Golden Knights. Il a bâti rapidement un succès autour d'une équipe en disant, les gars, on est tous à quelque part des rejetés des autres équipes de la Ligue nationale. Il leur a vendu ce concept-là. Moi, j'ai jamais assisté à un meeting que dirigeait Jones avec ses joueurs, mais je suis convaincu qu'à un moment donné, c'est venu sur le tapis. Dis, écoutez, les gars, là, on n'a pas de propriétaire, on nous voit pas venir. Il y a peut-être des équipes qui ont même perdu le respect qu'ils doivent avoir envers nous. Alors, tu sais, serrons-nous les coudes avec Vernon Adams comme corps arrière, qui n'est pas une grande vedette de la Ligue, mais c'est un gars qui a mis ses tripes sur le terrain quand il a été en santé pour le faire. Moi, c'est pour ça que je lève mon chapeau aux Alouettes, puis surtout pour les gens en place. J'en ai croisé quelques-uns au cours d'événements caritatifs cet été, Philippe, des gens qui travaillent dans les bureaux des Alouettes que je connais, certains qui sont là depuis très longtemps et qui travaillent fort, ils tiennent ça à bout de bras, ils espèrent avoir un jour un propriétaire bientôt, que tout ça se règle, mais je pense que ces gens-là font un job très honnête et sur le terrain, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un petit buzz, ça sera probablement pas la Coupe Grey, mais je pense que ça va nous avoir donné espoir, et pour ça, là, je vais donner un gros A aux Alouettes.
Ouais, excellent, je suis d'accord avec toi, je pense que les Alouettes méritent une très haute note parce qu'ils nous ont surpris. OK, on passe à ce qui est ton pain et ton beurre.
Le plat de résistance.
Le Canadien. Alors, comment tu vois l'été de Marc Bergevin? Parce qu'au fond, quand on parle du Canadien pendant l'été, ça se résume à un seul nom. Là. On parle pas de Jonathan Drouin, puis on parle pas de Carey Price, puis on parle pas de Shea Weber. On parle d'une personne, c'est Marc Bergevin. Comment tu analyses son été?
Ça a été un été tranquille pour Marc Bergevin et tout le Canadien. Je vais te faire une image. J'aime bien ça, faire des images. On a l'impression que l'équipe est partie sur le bord d'un lac à quelque part. Puis partie se reposer bien loin.
Ils n'ont pas accès à Internet, là.
Je sais pas. Mais écoute, on a l'impression que ils sont comme partis à l'extérieur de la ville. Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Est-ce que ça fait leur affaire? Est-ce que ça les sert bien? Probablement. Probablement. C'est un été tranquille chez le Canadien. Il n'y a pas eu de vagues. Il n'y a pas eu de controverses.
Il y a eu Sébastien Aho.
Oui, oui, mais tu sais, honnêtement, quand on s'assoit puis on analyse froidement le dossier, là, on savait que ça marcherait pas. On s'en est parlé même, toi et moi, le jour même. On savait que ça avait peu de chances de marcher. Mais bon, il y a eu une tentative. Après ça, calme plat, total. Pas de son, pas d'image du côté du Centre Bell. Vraiment tranquille de ce côté-là. On se souvient qu'il y a un an à peu près, le jour pour jour, on était presque dans une controverse avec Max Pacioretty, avec une poignée de main qui en était pas une en réalité, avec Marc Bergevin, puis toute cette histoire-là, c'était devenu tellement lourd autour de la direction de l'équipe. Tout le monde marchait sur des œufs dans ce dossier-là. On sait que la nuit qui a précédé le tournoi de golf l'an passé, Pacioretty a été troqué aux Golden Knights. C'est pour ça que c'est pas mal plus tranquille cette année. Moi, je pense que les gens ont beaucoup espoir envers les jeunes. Ils espèrent beaucoup de la deuxième année de Kotkaniemi. On espère beaucoup de Suzuki. On pense qu'avec sa fin de saison qu'il a connue chez les juniors, il pourrait être la surprise. On espère que Max Domi va être encore dans de bonnes dispositions, comme il l'a été l'an passé. Même chose pour Tomáš Tatar, qui est arrivé en compensation à Max Pacioretty. Tu sais, on espère beaucoup de Paling. Paling, on l'aime bien là, même si c'est un partisan de Donald Trump, il reste que les gens l'aiment beaucoup là, puis espère énormément de lui, puis espère surtout qu'il pourra remplir les attentes. Alors c'est ça le Canadien.
Mais tantôt,
cet été.
Martin, je t'écoutais au Québec maintenant avec Patrick Lagacé, ouais. Puis t'expliquais quelque chose de super intéressant. Tu disais il y a tellement de jeunes joueurs autonomes avec compensation qui n'ont pas signé leur contrat, ils vont probablement rester avec leur équipe respective, mais ils vont coûter cher. Alors peut-être que leur équipe va être obligée de libérer un contrat important pour accommoder sous le plafond salarial la nouvelle entente de la jeune vedette en question. Et ça, ça pourrait peut-être offrir des possibilités aux Canadiens d'obtenir du renfort.
C'est là, Philippe, où théoriquement, là, parce que on n'est pas dans les bureaux de ces équipes-là, là, mais bon, l'Avalanche du Colorado, ils peuvent le régler, Rantanen, c'est pas un problème de masse salariale, c'est un problème de budget. Dans le cas des autres équipes, par exemple, dans le cas des Flames de Calgary avec Tkachuk, si on veut l'attacher à long terme, il va peut-être falloir laisser partir un morceau, laisser tomber un morceau. Alors, c'est le cas dans d'autres équipes. Toronto, Tampa Bay qui a pas réglé Braden Point. Même si
Patrick
Toronto,
Laine à Winnipeg.
Patrick Laine à Winnipeg, quel dossier épineux. Puis là, lui, il commence à mettre un petit peu d'huile sur le feu dans les médias sociaux en plus, là, parce que lui, il a pas la langue dans sa poche. Alors, je ferme la parenthèse.
Peut-être juste, Martin, si tu permets, juste pour les gens qui ont peut-être raté ça en fin de semaine, Laine, on lui a demandé si il trouverait ça plate de quitter Winnipeg s'il réussissait pas à s'entendre. Puis il a dit « j'ai rien contre Winnipeg hein. ». C'est à peu près ça qu'il a dit. Quelle belle déclaration d'amour envers sa ville. J'ai rien contre Winnipeg.
Ouais, puis il a dit « je pourrais peut-être avoir un contrat, mais il faudrait négocier au moins pour avoir un contrat ». Alors, tu sais, dans cette optique-là, moi, je pense que Marc Bergevin pourrait éventuellement, d'ici le 3 octobre, le 2 octobre, quand les équipes vont remettre leur liste de 23 joueurs, s'il y a des contrats là où ça force un peu, je pense à Calgary, à Winnipeg, les équipes là, qui n'ont pas peur de dépenser jusqu'au plafond, pour qui l'espace pourrait être un problème, ben Marc Bergevin peut être un partenaire de danse. Puis là, je suis pas en train de faire rêver personne, puis de vous dire que j'entends des choses puis que ça va arriver. C'est que je regarde ça un petit peu de l'extérieur, là. Je regarde ça de l'autre côté de la vitrine, puis je me dis, ouais, le Canadien est un bon partenaire de danse avec une possible marge de manœuvre autour de 7 millions et quelques virgules, là. Alors ça, c'est intéressant. Puis bon, ben écoute, certaines équipes qui auront des problèmes après avoir réglé certains de ces jeunes joueurs vedettes-là, surtout s'ils veulent les avoir pour 7 ou 8 ans, ben donc vont peut-être laisser partir un joueur qui est en poche, je sais pas, moi, 3,5 millions, 4 millions, 5 millions, qui est sur leur masse salariale et un joueur de cette envergure-là économique, ben le Canadien peut en accueillir un sans problème. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est pas fini du côté du Canadien. Même si on a l'impression qu'ils sont partis à la maison de campagne toute l'été, puis qu'ils ont fermé les volets du Centre Bell, moi, je suis convaincu qu'ils vont rester aux aguets d'une situation comme ça, parce que les autres équipes savent, Philippe, que le Canadien, c'est ce qu'on appelle une équipe de cap, et le Canadien n'a pas peur de dépenser jusqu'à la limite salariale.
Ouais, maintenant, j'ai hâte de voir tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup d'observateurs s'attendent à ce qu'il y ait comme un deuxième marché là, qui va s'ouvrir avec tous ces jeunes joueurs avec compensation qui n'ont toujours pas signé leur contrat, puis que ça va entraîner du mouvement. Peut-être, mais peut-être que pas tellement non plus. Peut-être qu'ils vont signer avec leur équipe, puis que les autres, leur club vont réussir à s'accommoder sur le plafond. On verra bien.
Oui, puis en même temps, ben écoute, ça va être un enjeu important, tous ces dossiers-là, parce que ces huit joueurs-là pourraient probablement contribuer à faire sauter un système. C'est-à-dire que le système que l'on connaît actuellement, là, Bill Daly a même reconnu la semaine dernière, en parlant d'un calendrier international sur lequel les joueurs et les propriétaires semblent s'entendre, là. Il a même dit que la convention actuelle avait des inconvénients pour les deux côtés de la table et qu'en personne intelligente, il fallait s'asseoir puis regarder ça. Alors là, on a une ouverture d'esprit. Là, on commencera pas à parler de conflit de travail puis de négociation pour embêter les gens en plein mois d'août comme ça, là, quand il fait 30 à l'extérieur. Mais il y a une conjoncture. Et c'est pour ça que le Canadien pourrait peut-être en profiter de cette fameuse conjoncture. Mais il y a une chose qui est sûre, Philippe, quand le tournoi de golf va commencer le 9 septembre, c'est-à-dire la rentrée médiatique du Canadien, quand tout le monde arrivera, ben moi, j'ai l'impression que tout le monde devrait avoir le sourire, puis tout le monde va être bien content qu'il n'y ait pas eu de tornade autour du Centre Bell cet été. Ça va peut-être permettre à tout le monde de travailler un peu plus en paix.
OK. Martin, une note pour le Canadien jusqu'à maintenant?
Ah, écoute, je vais aller avec un B moins. Tu sais, parce que quand même, on a consolidé quelques acquis. On voit arriver une meilleure qualité de jeunes. Mais bon, écoute, au-delà de ça, on s'attendait à quelque chose. Mais le B moins, je leur donne un peu le bénéfice du doute, Philippe, pour faire suite à ce que je te disais. C'est-à-dire que pour eux, l'été va se terminer en quelque sorte le 3 octobre, quand la liste des 23 joueurs va tomber. Puis peut-être que d'ici là, le Canadien aura peut-être profité d'une situation pour améliorer son club.
Hey Martin, c'était encore une fois super intéressant de te parler, de t'entendre sur l'impact. Message sur le rayonnement de l'impact que tu nous as livré sur les Alouettes, bien sûr, et maintenant sur le Canadien.
Ça a été un grand plaisir.
Merci beaucoup d'avoir été là. Salut Martin.
Bonne soirée, Philippe.